Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est l'aboutissement d'un long processus commencé à la fin du 19e siècle. L'idée d'un foyer national, devenu plus tard un État. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la naissance d'Israël et la division du territoire palestinien.
En ce jour où prend fin le mandat britannique et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif et conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël.
Déclaration d'indépendance d'Israël, un extrait du discours historique de Ben-Gourion, considéré comme le père de l'État hébreu. C'était le 14 mai 1948. Une déclaration qui va mettre aussitôt le feu aux poudres et entraîner une réponse militaire des pays voisins. Dès le lendemain, les forces arabes, qui refusent le plan de partage proposé par l'ONU, passent à l'offensive et envahissent l'ancienne Palestine. Ainsi débute la première guerre israélo-arabe, une longue suite de conflits entre l'État juif et ses pays voisins.
Je pense que actuellement, je n'en suis pas heureux, mais actuellement, historiquement, pour donner à un peuple sa liberté, il faut lui donner la forme nationale. J'en suis désolé, mais c'est ainsi que l'histoire nous a imposé cette forme. Elle a imposé la forme nationale. Donc, pour les Juifs, il faut également une forme nationale. Cette forme nationale, c'est Israël, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est l'histoire qui l'a fabriquée et ce sont des jeunes juifs qui l'ont fabriquée. Elle existe maintenant. On aurait pu discuter de l'endroit. Je ne suis pas fait faute de le discuter, vous l'avez vu. J'ai fait toutes les restrictions nécessaires, mais enfin, depuis 18 ans, cet État existe. Eh bien, il me semble qu'à moins de tricherie ou à moins de se voiler la face ou de ne pas vouloir voir cette réalité comme on n'a pas voulu voir la réalité négative, de ne pas vouloir voir cette vérité positive. L'État d'Israël existe et par conséquent, cette nation existe. Et par conséquent, je dis... Si un juif veut le rétablissement de toutes ces dimensions d'hommes, eh bien aujourd'hui, pour un juif, ça veut dire l'État d'Israël. Voilà.
Les propos d'Albert Memmi, intellectuel juif, écrivain et sociologue, c'était au micro de Fernand Séguin, à notre télé, l'émission Le sel de la semaine, le 21 mars 1967. Alors pour nous parler de la naissance de l'État d'Israël et du partage de la Palestine, mon invité, Miloud Chenoufi, il est professeur de relations internationales et directeur des études supérieures au Collège des forces canadiennes, c'est à Toronto, on le joint dans nos studios là-bas. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bon, c'est un sujet qui est hautement délicat, qui peut être interprété de différentes façons, mais on va s'en tenir aux faits historiques. Alors, je disais en introduction, c'est l'aboutissement d'un long processus commencé à la fin du 19e siècle, faisant référence bien sûr au sionisme, hein, l'idée d'un foyer national juif en Palestine. Or, c'était quoi la Palestine avant l'arrivée massive des Juifs au 20e siècle?
Eh bien, la Palestine historique a existé depuis, en fait, des millénaires. Et cette terre-là, les quelques siècles avant la création de l'État d'Israël, était sous l'administration de l'Empire ottoman. Et d'un point de vue démographique, c'était l'un des endroits les plus cosmopolites au monde, dans lequel vivaient juifs, musulmans, arabes, arméniens, assyriens, etc. Voilà. Donc, et bien sûr, étant donné que l'Empire ottoman était un empire multiethnique et multireligieux, il y avait un point à faire de la part des autorités ottomanes, c'est de toujours protéger les différentes confessions, les différents groupes ethno-confessionnels. Donc, c'est à peu près à cela que ressemblait la Palestine jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Mmh. Après la Première Guerre mondiale, le territoire a été placé sous mandat britannique, jusqu'à, en fait, la partition en 1947.
Oui, tout à fait. Ça, on va y revenir. Mais en 1896, hein, il y a un intellectuel autrichien qui s'appelle Theodor Herzl, qui jette les bases du sionisme et qui plaide en faveur de la création d'un État national juif. Mm-hmm. Parce que, dit-il, les Juifs n'ont pas d'État, ils sont condamnés à errer. Ils choisissent la Palestine, terre d'Israël, berceau du peuple juif en Palestine, selon la Bible. Mais pourquoi ils choisissent la Palestine? Ils auraient pu, et même l'idée a été évoquée d'aller ailleurs.
En fait, la Palestine n'était pas une nécessité et puis les sionistes de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle n'étaient pas aussi unanimes qu'ils vont l'être plus tard à propos de la Palestine. Donc effectivement, sous l'Empire britannique, l'idée était de créer un État ou un foyer national, pour reprendre une expression qui va devenir fameuse plus tard. L'Ouganda avait été évoqué. Mmh. Alors maintenant, pour répondre à votre question, c'est tout simplement parce qu'il existe une présence juive sur la terre de la Palestine historique depuis toujours. Et puis, il y a un lien religieux également. Bien entendu, il y a une interprétation également politique de la Bible, hein, de l'Ancien Testament, qui soutiendrait que ce serait une terre qui est promise oui. pour la création d'un État. Pour oui. Les Juifs.
Mais c'est vrai, vous avez dit, bon, hein, l'Ouganda a été évoqué, l'Argentine mmh. également, mais le choix a été fixé sur la terre de la Palestine. Mmh. On va écouter le résumé qu'en faisait le père Ambroise Lafortune. C'était à notre télé. Il est question justement du retour des Juifs en terre d'Israël. C'était à l'émission La soif de Dieu le 8 décembre 1962.
Comment les Juifs y sont-ils retournés? En 1920, un certain nombre d'entre eux, il faut dire qu'à la fin du siècle dernier, quelques colons étaient partis. Un certain nombre d'entre eux sont rentrés là-bas. Et ils ont voulu rebâtir le pays. On leur en avait fait la promesse pendant la guerre de 14-18. Ce n'est qu'à la suite de la guerre, la dernière, que l'on a pu réaliser cette promesse. Et cette promesse leur a donné en 1947 une partition, c'est-à-dire les limites du pays que tu viens de voir, pas exactement, parce que le monde arabe leur a fait la guerre. Et Israël a gagné, si bien qu'en 1949 a eu lieu la proclamation de l'indépendance d'Israël et que le nouveau pays a été bâti.
Bon, le problème, on le sait, c'est qu'il y a du monde en Palestine, c'est pas un territoire vierge. On estime qu'à la fin du 19e siècle, il y a environ 25 000 Juifs en Palestine pour près de 500 000 habitants. Alors, choisir un lieu pour s'établir, c'est une chose, mais recevoir l'aval de la première puissance d'Europe, c'en est une autre. Alors, pourquoi la Grande-Bretagne s'engage-t-elle, comme ça, en 1917, à créer un État juif en Palestine?
En fait, la promesse qui a été faite au mouvement sioniste mondial pendant la Première Guerre mondiale fait partie d'une toute une série de promesses que les Britanniques ont fait, et toutes ces promesses étaient orientées vers la victoire dans la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont fait une promesse au Al Saoud, qui n'était en fait à l'époque qu'une famille, en leur promettant donc de les soutenir pour la création d'un État saoudien après la Première Guerre mondiale. Ils ont fait une promesse au shérif Hussein, c'est lui qui dirigeait les lieux saints de l'islam pour l'Empire ottoman, en contrepartie donc du soutien aux Britanniques contre les Ottomans de créer un État arabe unifié dans la région. Et bien sûr, il y a eu la promesse qu'on appelle la déclaration de Balfour, et c'était une façon de s'assurer du soutien politique et financier des communautés juives pour l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà à peu près comment les choses se sont passées. Et puis vous savez, à l'époque, l'Empire britannique était proprement un empire, oui. et donc penser que les conséquences de ces décisions seront toujours gérable eu égard à sa puissance. On saura par la suite que ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le conflit qui a été créé à travers cette proposition et à travers la partition dure jusqu'à aujourd'hui.
Mmh, oui, tout à fait. Donc, 1917, déclaration de Balfour, mais ce que, bon, vous l'avez dit, le problème, c'est que les Britanniques, ils ont fait beaucoup de promesses, et des promesses un peu contradictoires, non?
Exactement. Celles qu'ils ont tenues, c'est le soutien aux Saoudiens pour la création de l'Arabie saoudite. Sans les Britanniques, cet État n'aurait pas vu le jour entre le milieu des années 20 et le début des années 30. La deuxième promesse qui a été tenue à travers les Nations Unies, c'est bien sûr la création de l'État d'Israël. La seule promesse qui n'a pas été tenue, c'est celle qui avait été faite au shérif Hussein de créer un État arabe indépendant qui aurait unifié, si vous voulez, les provinces arabes de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les territoires qui se trouvent dans le Levant, l'Irak et une partie de la péninsule arabique. Cette promesse-là n'a pas été tenue puisque ces territoires-là ont été divisés entre deux puissances, la France et l'Angleterre. À la France est revenu le Liban et la Syrie, et à l'Empire britannique est revenu ce qu'on appellera plus tard la Jordanie, l'Irak et la Palestine historique.
Oui, donc 1920, Palestine sous mandat britannique, donc ce sont les Britanniques qui administrent le territoire, mais pendant ce temps, l'immigration juive s'intensifie en Palestine, encouragée notamment par la montée de l'antisémitisme en Europe.
Exactement. C'est-à-dire que les communautés juives qui vivaient en Europe faisaient face à deux situations différentes. Donc, bien sûr, il y avait les pogroms en Europe de l'Est, en Russie, beaucoup de pression, ghettoisation des communautés juives, donc oppression, effectivement, pour laquelle le mouvement sioniste ne trouvait d'autre solution qu'un foyer national ou éventuellement un État. Vous aviez également une certaine assimilation ou intégration des Juifs dans les pays d'Europe occidentale, malgré l'antisémitisme. Donc il y avait, si vous voulez, une certaine intégration, notamment en France et plus curieusement encore en Allemagne.
Oui.
Et tout cela va s'effondrer avec la montée du fascisme. Et c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à l'époque à soutenir des jeunes à émigrer vers la Palestine historique. Mais ceux qui le faisaient au nom du sionisme, et c'est ça qui est intéressant, ne le faisaient pas nécessairement avec l'idée que cela n'est que le premier pas pour la création d'un État ou de, pire encore, de diviser la Palestine historique et créer un État sur des bases ethno-confessionnelles. Donc il y avait beaucoup de sionistes à l'époque qui ne concevaient le sionisme que comme façon de protéger les populations, les communautés juives, mais pas nécessairement pour la création d'un État qui va ressembler à ce qu'il ressemble aujourd'hui.
Donc, ils arrivent d'un peu partout, hein, les Juifs d'Europe, notamment de Russie, d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, tranquillement comme ça, si bien que la population, elle augmente. Mais à ce moment-là, donc, on est autour des années 20, des années 30, comment c'est perçu, comment c'est reçu par les Palestiniens en Palestine?
Eh bien, au début, ce n'était pas nécessairement vu avec un mauvais œil. Vous savez, cette partie de la planète, pas uniquement la Palestine historique, mais le Levant de façon générale, a toujours connu des mouvements de population et les populations qui venaient d'ailleurs s'installer, créer des communautés et s'intégrer donc à la réalité locale. Donc au début, ça ne posait pas problème. Ça ne posait pas plus de problème que la migration des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale qui, à cause du génocide qu'ils ont subi pendant la guerre, eh bien, ceux qui ont survécu au génocide se sont installés en Palestine historique, se sont installés au Liban, en Syrie, etc. Donc le fait qu'il y ait des populations attachées à cette terre-là qui s'installent ne pose pas problème. C'est par la suite, quand il a été question d'acheter des terres à une échelle plus grande que ce qui était convenablement accepté, qu'on a commencé à soupçonner un projet politique derrière cela. Et c'est à partir de là que les conflits intercommunautaires ont commencé et ont eu effectivement lieu pendant les années 20 et les années 30.
Oui. Et là arrive donc 1939, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, l'extermination des Juifs. Alors, en quoi la Shoah, par la suite, va accélérer la naissance de l'État d'Israël?
L'Holocauste, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a convaincu ceux qui hésitaient encore que la solution au problème juif européen passe par la création d'un État Israël, mais au Moyen-Orient. C'est de cette manière-là qu'on a envisagé la chose. Bien sûr, plusieurs intellectuels juifs, des penseurs, etc., n'étaient pas tout à fait enthousiastes à l'idée qu'on crée un État en créant un conflit et qu'à ce conflit-là, on le règle à travers la force et l'exclusion des Arabes. Je citerai à cet égard-là la grande philosophe juive germano-américaine Hannah Arendt, qui était sioniste dans les années 20, a aidé l'immigration des Juifs vers la terre de Palestine historique, mais qui ensuite était très sceptique sur la tournure qu'avait pris la concrétisation du projet d'État israélien.
Oui. La Grande-Bretagne voit bien sûr les tensions, hein, les tensions sur le terrain, si bien que bon, devant la colère des pays arabes et des Palestiniens, la Grande-Bretagne va tenter de limiter l'immigration juive en Palestine, mais sans grand succès.
Oui, effectivement. Et puis, vous savez, même que ce soit dans la déclaration de Balfour ou que ce soit ensuite dans le projet de l'Assemblée générale des Nations unies de partition, il y avait toujours, disons, une clause sur la protection des droits des populations arabes. Le problème est que ni dans la déclaration de Balfour, ni dans la partition de la Palestine, les populations arabes n'étaient consultées. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans les deux cas, on les met devant le fait accompli. Et bien sûr, le projet britannique, le projet impérial britannique, était toujours de maintenir une mainmise sur la région. Ils ne pouvaient pas imaginer que le mouvement sioniste qu'ils ont aidé allait s'émanciper et lui imposer sa propre logique. Et comme comme vous le savez, hein, il y a eu des attentats, un attentat très célèbre dans l'histoire de cette région contre l'hôtel King David.
Oui,
et
oui.
Cet attentat-là témoigne des tensions qui existaient entre le mouvement sioniste et l'Empire britannique. Les Britanniques ont réellement voulu créer aussi un État arabe, mais si vous voulez, la logique qu'ils ont enclenchée les a dépassés une fois qu'elle a été mise en place.
Oui, tout à fait, parce que bon, ils ont tenté de limiter l'immigration, mais là, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc on imagine les images hein, des Juifs qu'on retourne chez eux, c'est arrivé entassé en Allemagne, un bateau, l'Exodus qu'on a détourné, si bien que, bon, ben oui, en 1947, là, le gouvernement britannique est complètement dépassé. Il y a de la violence sur le terrain et il décide de confier son mandat sur la Palestine à l'ONU. Alors, on va écouter d'ailleurs ce qu'en disait le représentant de la Grande-Bretagne à l'ONU en 1947, Sir Alexander Cadogan.
In accepting the mandate for Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom.
En acceptant le mandat sur la Palestine après la Première Guerre mondiale, le gouvernement de Sa Majesté s'est engagé à y établir un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne devait être fait qui puisse nuire aux droits civiques et religieux des communautés non-juives de Palestine. On a cru à l'époque que cet objectif pourrait être atteint avec l'accord et la coopération des deux peuples. L'expérience a montré que l'on s'était trompé.
Was incorrect.
Voilà, on a vu l'échec hein, de la part de la Grande-Bretagne qui confie son mandat à l'ONU. L'ONU, toute jeune organisation, on est vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU qui va accoucher d'un plan de partage en novembre 1947. Or, qui dit quoi? Qu'est-ce que dit ce plan de partage?
En fait, la première des choses à dire, c'est que ce plan a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies ne sont pas obligatoires, contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité. Mais enfin, c'est considéré comme étant une décision de l'ONU de prendre ce territoire de la Palestine historique, de le diviser en deux. Un peu plus que 50% du territoire devait servir de base pour l'État d'Israël. Et le reste, c'est-à-dire essentiellement la Cisjordanie et Gaza, un peu moins de 50% et beaucoup plus que ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les territoires palestiniens, devait servir pour la création d'un État arabe. À l'époque, on ne parlait pas d'un État palestinien puisque la Palestine historique était beaucoup plus grande que ce qui était réservé à cet État-là. Et donc, forcément, cette division s'est faite sans réellement prise en considération la position arabe. Vous savez, à l'époque, les États arabes étaient soit encore sous occupation directe occidentale, soit sous influence occidentale, des pays très très jeunes et très très faibles, avec des représentations diplomatiques pratiquement inexistantes, qui ne pouvaient pas réellement avoir un impact comme ils auraient peut-être pu en avoir aujourd'hui. Et forcément, cette thèse de partage a été beaucoup mieux accueillie par le mouvement sioniste que par le côté arabe. Voilà à peu près ce qu'il en était. Dans la partie du territoire qui est réservée à Israël dans ce partage-là, eh bien, des populations arabes vivaient. Et d'ailleurs, les descendants de ces populations-là y vivent encore aujourd'hui. Et donc, vous savez, ce n'est pas parce que vous tracez une ligne sur le sable que vous avez réglé tous les problèmes. Ce plan de partage ne disait pas grand-chose de substantiel sur l'égalité en droit. Il était fondé plutôt sur une forme de nationalisme qui associe, comme le disait Albert Mimi tout à l'heure, liberté et État-nation. On sait aujourd'hui que ça, c'est juste une occurrence historique possible, mais l'égalité dans la démocratie et le libéralisme peut se produire aussi dans des États multinationaux. Et ça, ce n'était pas pris en considération.
Oui, oui. Et démographiquement, hein, les Arabes, les Palestiniens sont plus nombreux encore à l'époque, en 1947. Bon, vous l'avez dit, les Israéliens l'acceptent relativement bien, les pays arabes le refusent. On va écouter ce qu'en disait d'ailleurs le docteur Khoury, représentant arabe à l'ONU à l'époque, dans les archives de l'INA en France, discours prémonitoire le 3 décembre 1947.
Ainsi, ces choses faites, à l'ONU, des peuples libres se sont prêtés à cette honte qui est le partage de la Palestine. Le Comité suprême arabe de Palestine et les États arabes n'ont cessé de mettre le monde en garde contre les graves conséquences qui résulteraient de toute amputation de la Terre sainte. Malheureusement, sans tenir compte de ces avertissements qui n'émanaient que d'un souci de légitime défense, une majorité s'est trouvée entraînée dans les sillages de visées impérialistes pour violer les droits les plus sacrés d'un peuple. C'est que nous sommes résolus, en effet, à défendre contre cette spoliation. C'est non seulement notre patrimoine, mais notre vie même et l'avenir de notre peuple. Ainsi donc, chacune des nations qui a voté le partage de la Palestine va à l'encontre du droit le plus absolu des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'encontre des principes de la charte. Et ceci pour une cause perdue à l'avance, car aucune force au monde ne pourra imposer un État juif en Palestine. Ainsi vient de s'allumer un incendie qui risque d'entraîner le monde dans le plus sanglant des conflits.
Ainsi vient de s'allumer un incendie. Et ce qui devait arriver arriva, donc la guerre civile va s'intensifier, mais en 1947, les Britanniques sont toujours là pour tenter de calmer le jeu. La fin du mandat britannique est fixée quelques mois plus tard, 15 mai 1948. Or, le 14 mai, donc juste la veille de la fin du mandat britannique, le départ de ces soldats, ils sont plus de 100 000 à ce moment-là, britanniques sur place, Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël. C'est un coup de poker à ce moment-là.
Effectivement, mais vous savez, c'est aussi un coup de poker qui reposait d'une part sur le soutien qu'ils avaient notamment aux États-Unis, qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale comme étant la grande puissance par excellence et qui a appuyé donc ce plan de partage et la création d'État d'Israël, mais également la non-opposition de l'Union soviétique à cela non plus. Donc, si vous voulez, il y avait déjà cette idée qu'il pouvait s'appuyer sur de grandes puissances. La deuxième, c'est que militairement, les pères fondateurs de cet État pouvaient s'appuyer aussi sur des bataillons entiers qui étaient rompus à l'usage des armes parce qu'ils avaient combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'était un pari sur l'avenir, mais c'était un pari qui, d'un point de vue stratégique, avait une justification et la suite des événements a montré qu'effectivement, il y avait lieu de le faire.
Oui. Ben-Gourion, d'ailleurs, sait qu'il y aura des conséquences. Hein, et il le dit même à son jeune adjoint, Shimon Peres. Tu vois, ce soir, ils dansent, mais demain, ils verseront leur sang. Il y aura une guerre. Et c'est vrai que c'est très entretenu, cette déclaration d'indépendance, parce que, il n'aura fallu que quelques heures. Hein, dès le lendemain, les forces arabes passent à l'offensive. Et ce sera le début de la première guerre israélo-arabe, donc au lendemain. Et on connaît la suite, hein, tout ça va mener à la situation qu'on connaît. Deux peuples qui, aujourd'hui, en 2023, toujours se disputent un même territoire. Un État juif entouré de pays arabes. Mon invité, je rappelle, Miloud Chenoufi, professeur de relations internationales, directeur des études supérieures au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Il nous parlait depuis nos studios là-bas. Merci beaucoup d'avoir rendu claire cette histoire qui est complexe, on le sait.
Merci de m'avoir reçu.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier. Là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.